Chapitre 8. Au moment où j'entrais, Miss Halcombe et une dame âgée étaient assises à la table du lunch. Cette dame, qu'on me nomma en me présentant à elle, se trouva être l'ancienne institutrice de Miss Fairley, Mrs. Vesey, la même que ma vive compagne du déjeuner m'avait sommairement décrite comme très bonne, possédant toutes les vertus cardinales et ne comptant exactement pour rien. Je ne puis que confirmer ici, par mon humble témoignage, l'exactitude de cette esquisse si lestement tracée par Miss Halcombe. Mrs. Vesey semblait personnifier à la fois le calme de la créature humaine et la complaisance particulière au sexe féminin. Sur sa figure potelée et placide rayonnait, en sourire somnolent, la paisible jouissance d'une existence paisible. Certains d'entre nous traversent la vie au galop. Certains d'entre nous y cheminent à petits pas. Mrs. Vesey y voyageait constamment assise. Dans la maison, qu'il fût de bonne heure ou qu'il fût tard, elle était assise. Assise dans le jardin, assise dans les couloirs, sur des bancs imprévus placés à l'intérieur des fenêtres. Assise sur un tabouret pliant, quand ses jeunes amis l'entraînaient à la promenade. Assise avant de regarder quoi que ce soit, avant de parler de quoi que ce soit, avant de répondre, par oui ou par non, à la question la plus triviale, toujours avec le même sourire serein sur les lèvres, la même pose de tête vaguement attentive, le même agencement des bras et des mains, combiné pour sa plus grande commodité, quelle que fût d'ailleurs l'évolution domestique à laquelle on la convia. Une bonne vieille, douce, complaisante, tranquille, inoffensive au-delà de toute expression, dont on ne pouvait se figurer qu'elle eût vécu pendant seulement une heure, depuis le jour de sa naissance. La nature a si fort à faire en ce bas monde, elle a sur le métier une si grande variété de productions coexistantes, qu'il ne faut pas s'étonner si, ça et là, elle s'embrouille dans ce grand nombre d'opérations simultanées. À ce point de vue, je resterai toujours convaincu, en mon particulier, que la nature, lorsque naquit Mrs. Vesey, s'appliquait à créer des choux, et que la bonne dame eut à supporter les conséquences de la préoccupation végétale dans laquelle s'absorbaient en ce moment les pensées de la mère universelle. « Et maintenant, Mrs. Vesey, » dit Miss Halcombe, qui par contraste avec l'immobile vieille dame assise près d'elle semblait redoubler d'éclat, de vivacité, de prestesse, « que vous servirai-je? Une côtelette ?» Mrs. Vesey croisa sur le bord de la table ses petites mains à fossettes, sourit tranquillement et dit « Oui, cher. Qu'y a-t-il donc là, en face de M. Hartwright? Un poulet bouilli, n'est-ce pas? Vous l'aimeriez peut-être mieux que la côtelette, Mrs. Vesey. » Mrs. Vesey retira du bord de la table ses mains à fossettes, qui allèrent d'elles-mêmes s'installer dans son giron. Elle détourna la tête d'un air contemplatif vers le poulet bouilli, et alors, comme devant, « Oui, cher, » répondit-elle. « À la bonne heure. Mais que choisissez-vous définitivement? « Monsieur Hartwright vous servira-t-il du poulet? Ou vous donnerai-je, moi, une côtelette ?» Mrs. Vesey replaça une de ses mains à fossettes sur le bord de la table. Elle hésita, comme endormie, et dit ensuite, « Ce que vous voudrez, cher. » « Miséricorde ! Mais c'est à votre goût, ma bonne dame. Ce n'est pas au mien que je m'adresse. » « Si vous preniez tour à tour de ces deux plats, et si vous commenciez par le poulet, car M. Hartwright semble brûler du désir de découper pour vous. » Mrs. Vesey ramena au bord de la table son autre main à fossettes. Sa physionomie, un moment, parut sur le point de s'animer. L'instant d'après, elle s'amortit. Alors, s'inclinant d'un air docile, « Si vous voulez bien, monsieur, » reprit-elle. N'est-ce pas là une brave dame, bien douce, bien complaisante, tranquille et inoffensive au-delà de toute expression? Mais peut-être en voilà-t-il assez pour le moment sur le compte de Mrs. Vesey. Miss Fairley, pourtant, ne se montrait guère. Notre luncheon s'acheva sans qu'elle eût paru. Miss Halcombe, dont l'œil alerte ne laissait rien échapper, prit note des regards que de temps en temps je jetais du côté de la porte. « Je vous comprends, Monsieur Hartwright, » dit-elle. « Vous vous demandez ce que peut être devenu votre élève numéro 2. » Elle est descendue. Et son mal de tête est guéri. Mais elle n'a pas assez regagné d'appétit pour venir s'asseoir au luncheon. Si vous voulez m'accepter pour guide, je crois pouvoir vous garantir que nous la retrouverons dans quelque coin du jardin. » Elle prit à ces mots une ombrelle, posée auprès d'elle sur un fauteuil, et, passant par une porte-fenêtre qui ouvrait du côté de pelouse, elle me montra le chemin. Il est presque inutile de dire que nous laissâmes Mrs. Beasley encore installée à table, ses mains à fossettes toujours croisées au bord de son assiette, et posée là, selon toute apparence, pour le reste de l'après-midi. Comme nous traversions les pelouses, Miss Halcombe me jeta un regard d'intelligence et, avec un léger mouvement de tête, « Votre mystérieuse aventure, me dit-elle, demeure encore enveloppée dans ces ténèbres de minuit qui lui vont si bien. J'ai passé toute la matinée à fureter parmi les lettres de ma mère, et je n'ai encore rien découvert. Cependant, Monsieur Hartwright, ne perdez pas si tôt toute espérance. Ceci est une affaire de curiosité. Or, vous avez pour allié une femme. Dans de telles circonstances, on doit, tôt ou tard, réussir. Ces lettres même, je ne les ai pas toutes examinées. Il m'en reste encore 3 paquets à ouvrir, et vous pouvez compter que je passerai la soirée entière à les dépouiller avec soin. » Ainsi, déjà, une de mes espérances du matin se trouvait déçue. Et je commençais à me demander alors si ma présentation à Miss Fairley ne tromperait pas les pressentiments qui, depuis le déjeuner, me faisaient l'attendre avec une si vive impatience. « Et comment vous êtes-vous tiré d'affaire avec M. Fairley ?» me demanda Miss Halcombe, au moment où nous quittions les pelouses pour entrer dans un jeune taillis. « Était-il ce matin plus nerveux qu'à l'ordinaire ?»« Oh, M. Hartwright, ne prenez pas tant de peine à méditer votre réponse. Votre hésitation me suffit. Je lis sur votre visage qu'il était, en effet, plus nerveux que d'habitude. Et comme je ne me soucie pas de vous mettre dans le même état, je ne vous en demanderai pas davantage. » Les détours du sentier que nous suivions, tandis qu'elle parlait ainsi, nous amenèrent insensiblement devant un joli pavillon, bâti en bois et affectant, en miniature, les formes d'un chalet suisse. L'unique chambre de ce pavillon, où nous arrivâmes en montant quelques marches, était occupée par une jeune dame. Elle se tenait debout près d'une table rustique, contemplant au dehors les perspectives étendues que lui offrait une trouée habilement pratiquée parmi les arbres, et d'un doigt distrait tournant les feuilles d'un petit album posé à côté d'elle. J'avais devant moi Miss Fairley. Comment la décrire? Comment séparer son image des sensations qu'elle produisait en moi et du souvenir de tout ce qui est arrivé dans ces derniers temps? Comment la revoir telle qu'elle m'a paru d'abord, telle que je la voudrais montrer à ceux qui vont la retrouver dans ces pages. Au moment où j'écris, le portrait à l'aquarelle où, un peu plus tard, je représentais Laura Fairley dans le même lieu, dans la même attitude où je l'avais vue pour la première fois, ce portrait est là, sur mon bureau. Je le regarde, et sur le fond brun des boiseries du pavillon, une blonde jeune fille, vêtue d'une simple robe de mousseline aux larges raies bleues et blanches, se détache rayonnante comme l'aurore. Une écharpe de la même étoffe enserre dans ses plis brisés ses épaules rondes. Un petit chapeau de paille, simplement garni des 3 rubans qui assortissent la robe, couvre sa tête et sur le haut de son visage projette je ne sais quelle douce teinte ambrée. Sa chevelure est d'un brun si atténué, si pâle, ni tout à fait blonde comme le chanvre, ni tout à fait éclatante comme l'or, qu'elle se perd presque, çà et là, fondue avec l'ombre du chapeau. Elle est simplement séparée et rejetée vers les oreilles. Ses masses ondulent comme la moire des flots frissonnants. Les sourcils sont un peu plus foncés que les cheveux. Les yeux sont de ce bleu doux et limpide que la turquoise rappelle, que les poètes chantent si souvent, et qu'il est si rare de rencontrer dans la vie de chaque jour. Charmant de couleur, charmante de forme, grand, tendre, calme, pensif, ses yeux devaient leur plus grande beauté à la sincérité transparente de leur profond regard, et semblaient, à chaque changement d'expression, emprunter quelques rayons aux clartés d'un monde plus pur et meilleur. Dans leur charme tout-puissant, comme dans un flot d'éblouissante lumière, s'effaçaient en même temps les beautés secondaires et les légères imperfections des autres traits. À peine s'aperçoit-on que peut-être les contours inférieurs du visage, trop mignons, trop atténués, ne sont pas rigoureusement d'accord avec les lignes de la partie supérieure, que le nez, échappant aux inconvénients de la forme aquiline, si parfaite qu'elle soit, elle donne au visage d'une femme quelque chose de dur et de cruel, s'est un peu trop infléchi dans l'autre sens, et a perdu quelque chose de sa rectitude classique. Que les lèvres, enfin, doucement expressives, sont sujettes, quand elles sourient, à une légère contraction nerveuse qui les relève tant soit peu d'un côté. Chez une autre femme, ce défaut serait facile à noter. Ici, un lien subtil les rattache à la gracieuse individualité qu'ils caractérisent, et ils semblent indispensables au jeu vivant de tous ces traits, dont l'ensemble est soumis à l'impulsion de ces deux grands yeux mobiles et rayonnants. Est-ce bien dans mon pauvre portrait, travail patient et caressé de longues heures joyeuses, que je vois vraiment toutes ces choses? Ah, combien peu sont, en réalité, dans ce dessin sans éclat et sans poésie! Combien, au contraire, dans la pensée avec laquelle je le contemple! Une jeune fille frêle et blonde, dans un joli ajustement de couleurs claires, feuilletant un album sur lequel ses yeux bleus se posent avec une sérénité loyale. Voilà tout ce que le dessin peut dire. Voilà peut-être aussi jusqu'où peuvent pénétrer, dans leur langage cependant plus expressif, la pensée et la plume de l'écrivain. La femme qui, la première, donne à nos vagues conceptions de la beauté, la vie, la clarté, la forme arrêtée qui leur manquait, comble, dans notre nature intellectuelle, une lacune que nous y avons ignorée jusqu'au moment où cette femme nous est apparue. Les sympathies qu'elle éveille en nous glissent à des profondeurs où la parole, la pensée même, arrive à peine. Elle dérive de charmes plus subtils que ceux dont nos sens subissent l'empire et dont les sources bornées du langage humain peuvent donner l'idée. La mystérieuse beauté des femmes n'arrive à cette hauteur où elle est inexprimable que lorsqu'elle s'apparente, pour ainsi dire, avec le mystère le plus profond encore caché au fond de nos âmes. Alors, et seulement alors, elle franchit les limites de cette région étroite où le crayon et la plume peuvent, ici-bas, jeter quelques rayons de lumière. En pensant à elle, songez à la première femme qui a fait battre plus vite dans votre poitrine un cœur jusque-là insensible aux attraits de ses rivales. Que ses yeux bleus, bons et candides, se lèvent sur les vôtres comme ils se levèrent sur les miens, avec cet irrésistible regard que nous nous rappelons si bien, vous et moi. Que sa voix soit pour vous la musique la plus aimée et caresse votre oreille comme elle caressait la mienne. Que son pas furtif, tandis que dans ses pages vous la verrez aller et venir, produise sur vous l'effet de cet autre pas au mouvement cadencé dont votre cœur jadis battit la mesure. Acceptez-la comme la création chimérique de votre fantaisie amoureuse. C'est le meilleur moyen de faire prendre sur vous, par degrés, à votre gracieux fantôme, l'empire que cette femme vivante a sur moi. Parmi les sensations que produisit en moi ce premier regard jeté sur elle, sensations connues de tous, qui germent dans le plus grand nombre des cœurs, sont dans la plupart étouffées et ne revivent, avec leur éclat primitif, que dans un bien petit nombre, il en fut une qui me jeta dans le trouble et l'inquiétude, une dont je ne pouvais m'expliquer l'effet discordant en présence de cette charmante jeune fille. Se mêlant à la vive impression que produisait sur moi ce blond et charmant visage, cette douce physionomie, cette attrayante simplicité de manière, je ne sais quelle idée confuse me suggérait vaguement qu'il manquait là quelque chose. Tantôt cette lacune me semblait être en elle, tantôt c'était à moi, me disais-je, que quelque chose manquait pour la comprendre, comme je l'aurais dû. Par une singulière contradiction, cette impression était toujours plus forte alors que Miss Fairley me regardait. En d'autres termes, c'est quand j'avais le mieux conscience du charme et de l'harmonie de son visage que je me sentais plus profondément troublé par cette idée qu'il manquait là quelque chose. Quelque chose d'impossible à découvrir. Incomplet, incomplet, me répétais-je sans cesse. Et je n'aurais pu dire ce qui manquait, ni comment y remédier. l'effet de ce singulier caprice d'imagination, c'est ainsi que j'en jugeais alors, n'était pas de nature à me mettre à mon aise pendant une première entrevue avec Miss Fairley. Les quelques paroles de bienvenue qu'elle m'accorda me trouvèrent tout au plus assez maître de moi-même pour lui adresser les remerciements voulus. Remarquant mon hésitation, et l'attribuant sans doute, avec assez de vraisemblance, à quelque timidité passagère, Miss Halcombe, toujours prête et de sang-froid, prit en main le dé de la conversation. « Voyez donc, Monsieur Hartwright, » dit-elle en me montrant l'album posé sur la table et la délicate petite main qui déjà y cherchait une page blanche. « Vous allez certainement reconnaître que vous avez enfin trouvé l'écolière modèle. À peine a-t-elle appris que vous êtes des nôtres, elle saisit son précieux sketchbook et, contemplant la nature en face, elle brûle de commencer la lutte. » Miss Fairley, en son humeur toujours sereine, poussa un léger éclat de rire qui vint illuminer son joli visage, comme eût pu le faire un rayon de ce beau soleil alors brillant sur nos têtes. « Je n'accepte pas un éloge qui ne me soit dû, » dit-elle, tandis que ses yeux d'azur limpides et sincères erraient sur Miss Halcombe et sur moi. Si grand plaisir que je prenne à peindre, la conscience que j'ai de mon peu de talent me donne plutôt la crainte que le désir de commencer. Maintenant que je vous sais ici, Monsieur Hartwright, me voilà passant en revue mes croquis, comme autrefois mes leçons, quand j'étais petite fille et que j'avais grand-peur de ne pas en savoir le premier mot. Après m'avoir fait cette confession, avec une simplicité de bon goût, elle attira vers elle son album et prit l'air sérieux d'un enfant qui se prépare à s'appliquer beaucoup. Miss Halcombe, avec ses façons toutes rondes et un peu brusques, coupa court aux embarras de la situation. « Bonne, mauvaise ou médiocre, dit-elle, les esquisses de l'élève doivent subir, il n'y a pas à dire, la terrible critique du professeur. Maintenant, Laura, si nous les emportions avec nous dans la voiture. » Monsieur Hartwright les verrait tout d'abord, avec les circonstances atténuantes résultant des chaos et des interruptions continuelles qu'il lui faudra subir. Que si, dans cette bienheureuse calèche, nous pouvions l'amener à confondre la nature telle qu'elle est, et telle qu'il l'aura sous les yeux, avec la nature telle qu'elle n'est pas, et telle que nos albums la lui montreront, il n'aurait plus dans son désespoir qu'à nous accabler de compliments, et nous glisserions à travers ses doigts savants, sans y laisser une seule des plumes qu'étale notre vanité, toujours prête à faire la roue. Je compte bien que M. Hartwright ne me fera pas de compliments, dit Miss Fairley, comme nous sortions ensemble du pavillon. Oserais-je vous demander ce qui vous rassure à cet égard, lui dis-je à mon tour. C'est que je suis décidé à prendre au pied de la lettre tout ce que vous me direz, répliqua-t-elle simplement. Dans ce peu de mots, elle venait de me donner la clé de son caractère. Le mot de cette généreuse confiance qu'elle puise dans le sentiment de sa propre loyauté. Je n'en eus, au moment dont je parle, que la simple intuition. Maintenant, j'en ai fait l'expérience complète. Nous ne prîmes que le temps d'enlever la bonne Mrs. Vesey au siège qu'elle occupait dans la salle à manger déserte, et nous partîmes ensuite, en calèche découverte, pour la promenade annoncée. La vieille dame et Miss Halcombe occupaient le siège du fond. Miss Fairley et moi étions vis-à-vis, tenant ouvert entre nous l'album enfin livré à mon examen. Toute critique sérieuse de ces dessins, alors même que j'eusse été enclin à me la permettre, eût avorté devant le parti bien pris par Miss Halcombe de ne voir que le côté ridicule des beaux-arts au moins tels que les pratiquent les amateurs comme elle, comme sa sœur, et comme les dames en général. Je me rappelle bien mieux sa conversation avec nous que les esquisses sur lesquelles, de temps à autre, je laissais machinalement tomber quelques regards. Ce sont plus particulièrement les portions de cette causerie auxquelles Miss Fairley prenait quelque part que, fortement empreinte dans ma mémoire, je pourrais redire comme si elle datait d'hier. Oui, j'avouerai que dès cette première journée, je laissais le charme de sa présence me distraire du souvenir de notre situation respective. Les plus frivoles questions qu'elle me posa, touchant le maniement du crayon et l'amalgame des couleurs, les plus légers changements d'expression dans ses beaux yeux, qui cherchaient à chaque instant les miens avec un ardent désir d'apprendre tout ce que j'étais chargé de lui enseigner, attiraient mon attention bien autrement que les paysages au milieu desquels on me promenait, ou que les grandioses variations de lumière et d'ombre se succédant à la surface inégale des vastes marécages et sur les sables bien nivelés de la grève. En tout temps, et en quelques circonstances que les intérêts humains soient en jeu, n'est-il pas curieux de constater à quel point les objets extérieurs du monde où nous vivons prennent peu sur nos sentiments et nos pensées? C'est seulement dans les livres que nous recourons à la nature, consolatrice de nos peines, complice sympathique de nos plaisirs. Même chez les meilleurs d'entre nous, l'admiration de ces beautés du monde sensible, que la poésie moderne décrit avec tant d'ampleur et d'éloquence, ne se rencontre pas comme des instincts originels de notre organisme. Enfant, aucun de nous ne le possède. Personne plus tard, homme ou femme, ne l'a sans le devoir à quelques études. Ceux-là, dont la vie presque tout entière s'écoule au milieu des plus merveilleux aspects de la terre ou de la mer, sont aussi ceux que les spectacles de la nature trouvent le plus généralement insensibles, à moins qu'ils ne s'y rattachent quelque intérêt humain, quelque question de métier. Pour être capable d'apprécier les beautés du monde au sein duquel nous vivons, il nous faut y être préparé, comme à un art, par les enseignements de l'existence civilisée. Personne, de plus, n'exerce guère cette capacité, artificiellement développée, que dans les moments où l'âme est le plus inerte, où le loisir est le plus complet. Demandons-nous quelle part les charmes de la nature ont eu jamais dans les préoccupations et les émotions, joyeuses ou pénibles, soit de nous-mêmes, soit de nos amis. Quelle place leur accorde-t-on dans ces mille petits récits d'incidents personnels qui passent chaque jour d'une bouche à l'autre? Tout ce que notre intelligence peut embrasser, tout ce que nos cœurs peuvent acquérir, nous arrive avec autant de certitude, autant de profit, autant de satisfaction intime, au sein du plus humble ou du plus magnifique paysage que la terre ait à nous montrer. Il est assurément quelque raison pour ce manque de sympathie innée entre la créature et la création qui l'entoure. Raison qu'il faudrait peut-être chercher dans les destinées si différentes de l'homme et de sa sphère terrestre. La plus vaste chaîne de montagnes que puisse parcourir le regard est condamnée d'avance au néant. La moindre émotion produite dans le cœur de l'homme est prédestinée à une immortalité certaine. Notre course avait à peu près duré 3 heures lorsque la calèche franchit de nouveau les portes de Limeridge House. En revenant, j'avais laissé ces dames convenir entre elles du point de vue qu'elles devaient dessiner sous mes yeux dans l'après-midi du lendemain. Quand elles montèrent s'habiller pour le dîner, et lorsque je me retrouvai seul dans mon petit salon, je sentis ma gaieté m'abandonner tout à coup. J'étais mal à l'aise et mécontent de moi-même, sans savoir au juste pourquoi. Peut-être ma conscience me reprochait-elle pour la première fois d'avoir pris plaisir à notre promenade, plutôt comme un simple hôte que comme un professeur de dessin. Peut-être aussi étais-je hanté par ce sentiment dont j'ai parlé, qu'il manquait quelque chose, soit à Miss Fairley, soit à moi, pour nous donner la pleine intelligence l'un de l'autre. À tout prendre, j'éprouvais un grand soulagement lorsque l'heure du repas vint m'arracher à ma solitude et me ramena au milieu des dames de la famille. En entrant au salon, je fus frappé du contraste curieux qu'offrait leur toilette de soirée. Tandis que Mrs. Vesey et Miss Halpoom étaient richement habillées, chacune selon les convenances de son âge, la première en satin gris à reflets d'argent, la seconde en soie de cette nuance délicate qui rappelle la prime vert, et dont le jaune indécis se marie si heureusement au teint brun, aux cheveux noirs, Miss Fairley, plus simple et presque trop simple, portait une robe de mousseline blanche, sans la moindre broderie ou le moindre agrément. Cette robe était, il est vrai, d'une blancheur irréprochable. Elle lui allait à merveille. Encore était-ce pourtant l'espèce de vêtement dont eût pu se parer la femme ou la fille d'un homme tout à fait sans fortune. Et, à ne la juger que sur ses dehors, on n'eût pu la croire plus pauvre que sa propre institutrice. Plus tard, apprenant à mieux connaître Miss Fairley, j'ai pu m'assurer que cette simplicité, peut-être excessive, tenait à la délicatesse naturelle de ses sentiments et à l'extrême aversion que lui inspirait tout ce qui, de près ou de loin, pouvait ressembler à un étalage de sa fortune. ni Mrs. Vesey, ni Miss Halcombe ne purent jamais obtenir qu'elle leur disputât la supériorité de mise où elles trouvaient de manière ou d'autre quelque compensation à leur infériorité de richesse. Le dîner terminé, nous revînmes ensemble au salon. Bien que, digne émule de ce monarque assez intelligent pour daigner ramasser le pinceau du Titien, M. Fairley eût enjoint à son sommelier de me laisser choisir le vin qu'il pourrait me convenir de boire après le dîner, j'eus le courage de résister à la tentation qui m'était offerte. Et au lieu de trôner majestueusement, mais seul, parmi les bouteilles d'élite, je sollicitai de ces dames la permission de quitter la table avec elles, ainsi que cela se pratique chez les étrangers civilisés, pendant toute la durée de mon séjour à Limeridge House. Le salon où nous venions de rentrer pour le reste de la soirée, situé au rez-de-chaussée, était de la même dimension et de la même forme que la salle à manger. À son extrémité inférieure, de grandes portes vitrées ouvraient sur une terrasse ornée, dans toute sa longueur, par une profusion de fleurs rares, tirées des serres du château. Les lueurs du crépuscule, vaporeuses et douces, venaient justement de descendre sur ce magnifique parterre, dont elles harmonisaient, en les éteignant quelque peu, les couleurs vivement contrastées. Par les portes ouvertes arrivaient jusqu'à nous les pénétrants parfums que les fleurs dégagent à l'approche de la nuit. La bonne Mrs. Vesey, toujours la première à s'asseoir, prit possession d'un grand fauteuil établi dans un angle, et s'y engourdit confortablement, par manière de préface à un sommeil plus complet. Miss Fairley, sur ma demande, se mit au piano. Tandis que j'allais m'asseoir auprès d'elle, je vis Miss Halcombe se retirer dans la baie profonde d'une des fenêtres pour continuer, aux dernières clartés du jour, ses recherches dans les papiers de sa mère. Comme cette scène domestique, comme ce salon paisible me réapparaissent nettement tandis que je trace ces lignes. De l'endroit où j'étais assis, je pouvais voir la taille gracieuse de Miss Halcombe, à moitié en pleine lumière, à demi perdue dans l'ombre, se pencher vers les lettres amoncelées sur ses genoux. Plus près de moi, cependant, le blond profil de la belle musicienne se découpait de plus en plus vague, à mesure que baissait le jour, sur le fond graduellement obscurci des lambris intérieures. Au dehors, sur la terrasse, les fleurs groupées et leurs longues ramures repliées sur elles-mêmes se balançaient si doucement, effleurées par la brise du soir, que nul bruit émané d'elle n'arrivait jusqu'à nous. Le ciel n'avait pas un nuage, et déjà dans ces régions orientales commençait à vibrer la mystérieuse aurore du clair de lune. Une sensation profonde de paix et d'isolement, calmant toute pensée et tout mouvement du cœur, plongeait l'être entier dans un extatique ravissement qui l'emportait loin de la terre. Et le repos embaumé que le décroissement de la lumière semblait de minute en minute rendre plus profond, sembla planer sur nous, plus caressante encore lorsque jaillirent du piano les tendres et célestes mélodies de Mozart. Je ne t'oublierai jamais, soirée charmante où je vis, où j'entendis tout cela. Nous demeurâmes sans mot dire chacun à la place qu'il avait choisie, Mrs. Vesey sommeillant toujours, Miss Fairley jouant toujours, Miss Halcombe lisant toujours. Jusqu'à ce que le jour vînt à nous manquer. La lune furtive avait alors fait le tour de la terrasse, et ses lueurs mystérieuses éclairaient déjà obliquement le bas du salon. Succédant à l'obscurité du crépuscule, elle nous semblait si belle que d'un commun accord, nous renvoyâmes les lampes apportées par un serviteur trop exact. Et la vaste pièce demeura ainsi dans la pénombre où la laissaient les deux bougies allumées au-dessus du clavier. Pendant une heure encore, la musique continua. Puis la beauté du tableau qu'offrait la terrasse, vue au clair de lune, parut tenter Miss Fairley, que je m'empressai d'y accompagner. Miss Halcombe, qui avait changé de place pour continuer sa lecture quand les bougies du piano avaient été allumées, demeura auprès d'elle, sur une chaise basse, tellement absorbée en son travail mental qu'elle ne sembla pas prendre garde à notre sortie. Nous étions à peine depuis 5 minutes sur la terrasse, l'un près de l'autre, devant les portes vitrées, et Miss Fairley, par mon conseil, venait de nouer son mouchoir blanc autour de sa tête pour se garantir de l'humidité des nuits. Lorsque j'entendis la voix de Miss Halcombe, plus grave, plus significative, ne ressemblant à rien à ce qu'elle était d'ordinaire, articulait tout d'un coup mon nom. « Monsieur Hartwright, disait-elle, voulez-vous venir une minute? J'ai besoin de vous parler. » Je rentrai immédiatement dans le salon. Le piano était à peu près au milieu de la pièce, appuyé contre le mur intérieur. À l'extrémité de l'instrument la plus éloignée de la terrasse, Miss Halcombe était assise, les lettres éparses sur ses genoux, sauf l'une d'elles qu'elle venait de choisir et que sa main tenait près des flambeaux. Du côté opposé, c'est-à-dire le plus voisin de la terrasse, était une ottomane sur laquelle je m'assis. Ainsi placée, je n'étais pas loin des portes vitrées, et je pouvais parfaitement voir Miss Fairley qui se promenait lentement d'un bout de la terrasse à l'autre, quand elle passait et repassait au clair de lune, devant cette issue ouverte à mes regards. « Veuillez écouter les passages qui terminent cette lettre, » me dit Miss Halcombe. Vous me direz ensuite s'ils peuvent jeter quelque lumière sur l'étrange rencontre que vous avez faite auprès de Londres. La lettre est adressée par ma mère à M. Fairley, son second mari. La date remonte à 11 ou 12 ans. À cette époque, Mr. et Mrs. Fairley avaient passé plusieurs années dans ce château, avec Laura, qui est, vous le savez, ma demi-sœur. Moi, j'étais loin d'eux, achevant mon éducation dans un pensionnat parisien. La physionomie, le langage de Miss Halcombe, tandis qu'elle s'exprimait ainsi, trahissait beaucoup d'animation et, à ce qu'il me sembla, quelques troubles intérieurs. Au moment où, avant de commencer à lire, elle rapprochait la lettre des bougies qui l'éclairaient, Miss Fairley passa devant nous, sur la terrasse, jeta un regard dans le salon et, nous voyant occupés, continua lentement sa promenade. Voici ce qu'en commençant me lut Miss Halcombe. Je dois vous ennuyer, mon cher Philippe, en vous parlant sans cesse de mes écoles et de mes écoliers. Rejetez-en la faute, je vous prie, sur la monotonie un peu fastidieuse de la vie qu'on mène à Limeridge. Cette fois, d'ailleurs, j'ai quelque chose à vous dire au sujet d'une élève tout récemment entrée chez nous. Vous connaissez la vieille Mrs. Kemp, notre marchande par excellence. Eh bien, le docteur a fini par désespérer d'elle, et la voilà qui s'éteint de jour en jour. La seule parente qui lui reste au monde, une sœur, est arrivée la semaine dernière pour la soigner. Cette sœur nous vient tout droit du Hampshire. Son nom est Mrs. Catherick. Il y a quelques jours, Mrs. Catherick est venue me voir, m'amenant son enfant unique, charmante petite fille, d'un an à peu près plus âgée que notre chère Laura. Au moment où cette fin de phrase passait sur les lèvres de la lectrice, Miss Fairley vint encore une fois à traverser la terrasse. Elle se fredonnait à elle-même une de ces mélodies que peu d'instants avant, elle avait exécutées sur le piano. Miss Halcombe attendit que sa sœur eût disparu, puis elle reprit la lecture commencée. « Mrs. Catherick est une femme dont l'attitude est bonne, dont les dehors sont décents et qui sait se faire respecter. » Elle n'est ni jeune ni vieille et conserve les restes d'une beauté qui n'a jamais dû être de premier ordre. Dans ses façons et ses dehors, cependant, quelque chose me déroute et m'intrigue. Elle est sur son passé d'une réserve, d'une discrétion presque absolue. Et dans sa physionomie, il y a quelque chose, je ne saurais dire ce que c'est, qui me fait penser qu'elle a sur la conscience un remords, un fardeau quelconque. Vous l'appelleriez un mystère vivant. Cependant, l'objet qui l'a conduite à Limeridge House n'avait rien que d'assez simple. Lorsqu'elle a quitté le Hampshire pour venir soigner sa sœur, Mrs. Kemp, pendant la dernière maladie de celle-ci, elle a dû, n'ayant personne au logis pour prendre soin de la petite fille, amener cet enfant avec elle. Mrs. Kemp peut mourir d'ici à 8 jours, tout comme elle peut languir des mois entiers. Et Mrs. Catherick venait me demander que sa fille Anne pu profiter de leçons qu'on donne dans notre école, sous condition, bien entendu, qu'après la mort de Mrs. Kemp, l'enfant serait retiré et retournerait chez sa mère. J'y ai immédiatement consenti. Et lorsque nous sommes sortis, Laura et moi, pour notre promenade quotidienne, nous avons emmené à l'école aujourd'hui même cette petite fille qui vient d'avoir 11 ans. Une fois encore, Miss Fairley, fantôme éclatant et doux, sous les plis neigeux de son léger vêtement, et dont la figure, gracieusement encadrée par le mouchoir blanc qu'elle avait noué sous son menton, évoquait le souvenir de quelques nonnes du Moyen Âge, passa devant nous au clair de lune. Une fois encore, Miss Halcombe attendit qu'elle fût hors de vue, et seulement alors elle continua. J'ai pris, Philip, un goût très vif pour ma nouvelle écolière, et cela par un motif dont je vous réserve la surprise jusqu'à la fin de cette lettre. Sa mère ne m'ayant guère donné sur l'enfant plus de renseignements que sur elle-même, il m'a fallu découvrir, et ce fait m'a révélé dès le premier examen auquel on l'a soumise, que l'intelligence de ce pauvre petit être n'est pas développée en proportion de son âge. Ceci constaté, je l'ai ramené à la maison, et sans faire semblant de rien, j'ai mandé le médecin pour l'examiner, la questionner et me dire ce qu'il en pensait. Son opinion est qu'avec le progrès des années, son moral pourra se développer. Il dit, en revanche, qu'il est très important de surveiller l'enseignement qu'on va lui donner, parce que l'extraordinaire lenteur qu'elle met à s'assimiler les idées implique une ténacité non moins exceptionnelle à les conserver, une fois qu'elles ont pris place dans son intelligence. Maintenant, cher et bon ami, ne vous figurez pas, dans votre expéditive façon de juger les choses, que je me suis éprise d'une idiote. Cette pauvre petite Anne Catherick est une douce enfant, toute affection et reconnaissance. Elle dit les choses du monde les plus inattendues et les plus piquantes. Vous allez être à même d'en juger, avec une soudaineté, une physionomie surprise, effarouchée de l'effet le plus bizarre. Quoique proprement habillée, ses vêtements trahissent un déplorable manque de goût, aussi bien par leur couleur voyante que par l'étrangeté de leur coupe. Aussi avais-je décidé dès hier que quelques-unes des vieilles blouses blanches de notre chère Laura et quelques-unes de ses caplines blanches seraient arrangées à l'usage d'Anne Catherick. J'expliquai en même temps à celle-ci qu'aux petites filles blondes comme elle, un costume tout blanc convenait mieux que n'importe quel autre. Il y eut chez elle une minute d'hésitation et d'embarras. Puis elle rougit et parut comprendre. Sa petite main, tout à coup, vint chercher la mienne. Elle y déposa un baiser, Philip, et, d'un ton si pénétré, « Toute ma vie, désormais, dit-elle, je m'habillerai de blanc. Cela, madame, me fera souvenir de vous, et loin de vous, ne vous voyant plus, j'aurai du moins la pensée que je vous complais en quelque sorte. » Voilà seulement un échantillon de ses propos singuliers qu'elle tient parfois si gentiment. Pauvre petit cœur! Elle ne me quittera pas sans avoir une provision de blouses blanches, avec de bons ourlets bien larges, qu'on pourra défaire au fur et à mesure de sa croissance. Miss Halcombe s'arrêta, et, par-dessus le piano, m'interrogeant du regard, « Est-ce que la pauvre femme par vous rencontrée sur le grand chemin vous a paru jeune ?» me demanda-t-elle. « Sa figure accusait-elle beaucoup plus que 22 ou 23 ans ?»« Non, Miss Halcombe, elle ne paraissait pas plus âgée que cela. » »« Et son costume, ce costume étrange, était blanc, m'avez-vous dit, de la tête aux pieds ?»« Elle était certainement tout en blanc. » Au moment où mes lèvres articulaient cette réponse, Miss Fairley, pour la troisième fois, réapparut sur la terrasse. Au lieu de continuer sa promenade, elle s'arrêta, nous tournant le dos. Mes yeux s'arrêtèrent sur la blancheur de sa robe de mousseline et du mouchoir qui lui couvrait la tête, blancheur que le clair de lune semblait rendre plus frappante. Alors, une sensation à laquelle je ne saurais trouver de nom, sensation presque fiévreuse qui faisait battre mon cœur et hâtait dans mes artères la course du sang, se mit à me gagner peu à peu. « Tout en blanc, » répéta Miss Halcombe, « ce qu'il y a de plus essentiel dans la lettre, Monsieur Hartwright, est renfermé dans les dernières lignes que je vais vous lire immédiatement. Mais je ne puis m'empêcher de m'arrêter à la coïncidence du costume blanc porté par la femme que vous avez rencontrée avec les blouses blanches qui provoquèrent jadis l'étrange réponse faite à ma mère par sa petite protégée. En prédisant que cet enfant verrait disparaître avec l'âge ses infirmités intellectuelles, le docteur n'était pas un oracle infaillible. Peut-être n'en est-elle jamais guérie. Et la fantasque reconnaissance qui la poussait à se vouer au blanc, sentiment sérieux chez la petite fille, sera resté un sentiment sérieux chez la femme faite. À ceci, je répondis quelques paroles, je ne sais lesquelles. Toute mon attention se concentrait sur l'éclatante blancheur de la mousseline qui enveloppait Miss Fairley. Écoutez les dernières phrases de la lettre, dit Miss Halcombe. Je me figure qu'elles vont vous étonner. Comme elle levait la lettre pour la rapprocher des bougies, Miss Fairley, quittant la balustrade, promena ses regards à droite et à gauche sur la terrasse. Elle fit un pas vers les portes vitrées et, tournée vers nous, s'arrêta immobile. Cependant, Miss Halcombe me lisait ces dernières lignes qu'elle venait de signaler à mon attention. Et maintenant, cher ami, maintenant que je suis au bout de mon papier, je vous dirai le motif vrai, le motif merveilleux de mon affection pour la petite Anne Catherick. Bien qu'elle ne soit pas, il s'en faut, aussi jolie, elle a néanmoins, mon cher Philippe, par une de ces ressemblances capricieuses que l'on rencontre quelquefois, les mêmes cheveux, le même teint, la même forme de visage et les yeux de la même couleur. Avant que Miss Halcombe eût pu prononcer un mot de plus, j'étais debout. Sous ma chair venait de passer le même frisson glacé que j'avais éprouvé au contact de cette main qui, naguère, sur la route déserte, effleurait mon épaule. Devant nous était Miss Fairley, blanche apparition seule, au clair de lune. Son attitude, la pose de sa tête, son teint, le calme de son visage, faisaient d'elle, à cette distance et dans les circonstances où nous étions placés, l'image vivante de la femme en blanc. Cette anxiété qui fatiguait mon esprit depuis quelques heures disparut devant une certitude rapide comme l'éclair. Ce quelque chose qui me manquait, c'était d'avoir reconnu la ressemblance de fatal augure qui existait entre la fugitive de la maison d'Aliéné et mon élève de Limeridge House. « Vous le voyez, » dit Miss Halcombe. Elle laissa tomber la lettre, désormais inutile, et son regard étincelait se mêlant au mien. « Vous le voyez comme ma mère le voyait, il y a 11 ans. Je le vois, plus à regret que je ne puis dire. Assimiler, ne fût-ce qu'à cause de cette ressemblance fortuite, assimiler à Miss Fairley cette malheureuse femme, abandonnée, sans amis, perdue, n'est-ce pas, en quelque sorte, jeter un voile funèbre sur l'avenir de cette brillante créature qui est là, debout, devant nous? Ah, laissez-moi, le plus tôt possible, me soustraire à cette impression désolante. Qu'elle rentre ici. Qu'elle quitte ce clair de lune lugubre. Je vous en prie, faites-la rentrer. Vraiment, monsieur Hartwright, vous m'étonnez. Quelle que puisse être la faiblesse féminine, je croyais que les hommes, au XIXe siècle, étaient au-dessus de toute superstition. Je vous en supplie, faites-la rentrer. Chut, chut, elle revient d'elle-même. Ne dites rien devant elle. Que la découverte de cette ressemblance demeure un secret entre vous et moi. Revenez, Laura. Venez réveiller Mrs. Vesey avec quelques bons accords plaqués. Monsieur Hartwright réclame un peu plus de musique, et il la veut cette fois aussi légère, aussi gaie que possible. »